rétinopathie et les autres problèmes. Au besoin, vous pourrez par la suite être dirigé vers un ophtalmologiste pour une évaluation ou des soins plus spécialisés. La clinique d'optométrie des Îles, membre OptoRéseau, les professionnels à voir pour vos yeux.
Prenez note qu'à la fin du trait prolongé, il sera exactement midi. Un rappel de la clinique d'optométrie des Îles.
Aux îles de la Madeleine, vous écoutez CFIM, le son de la mer.
Bon midi, mesdames et messieurs, ici François Delisle au micro et voici vos informations. La succursale de la Société des alcools du Québec est fermée pour la journée. Les employés de magasins et de bureaux d'ici et de partout dans la province sont en grève contre la précarité d'emploi. Les syndiqués affiliés à la CSN veulent faire accélérer le rythme des négociations. Plus de détails à venir dans cette émission de l'épreuve des faits. La municipalité des Îles défend sa redevance touristique, mais à une semaine de sa mise en place, plusieurs questions demeurent sans réponse. Voici le résumé de Laurence Damioul.
Vivement critiquée sur les réseaux sociaux, la passe Archipel suscite des interrogations, notamment quant à sa légalité. L'absence d'exemption pour les Madelinos qui vivent à l'extérieur du territoire est aussi décriée. En table ronde à CFIM, le maire Antonin Valiquette a fait valoir la complexité d'implanter ce genre de disposition.
C'était une de nos préoccupations beaucoup au niveau de la table du conseil. Au niveau réglementaire, là, de penser à mettre une exemption, c'est carrément pas faisable. Imaginez tous les cas de figure que ça pourrait entraîner. Moi, j'ai déjà habité aux îles. Je suis né là, mais je suis parti. Mais mon père vient de là. Écoutez, ça se pouvait pas là, d'appliquer ça. Là. Quand je vous dis qu'il faut y aller par règlement, il faut que le règlement soit le plus clair possible et le plus applicable possible. Ben là, on est là-dedans. Là. Une mesure comme celle-là, une exemption comme celle-là, c'était pas faisable et ça aurait pas été équitable non plus.
Pour plusieurs, c'est l'utilisation d'un code QR comme preuve de paiement qui fait craindre une intrusion dans les données personnelles. M. Valiquette compare le code QR généré à celui obtenu via l'achat de billets de spectacle.
C'est la même chose que de s'acheter un billet pour un spectacle au Vieux-Treuil. On paye un billet, on reçoit une confirmation de paiement qui est un code QR aussi, qui est scanné à la salle de spectacle. Le code QR, tout ce qu'il contient comme information, c'est payé ou pas payé. Il n'y a aucun nom, adresse, carte de crédit, date de naissance. Il n'y a aucune espèce d'information personnelle sur le code QR. La plateforme de paiement, elle est sécurisée. De la même façon que si vous achetez un billet d'avion ou un billet de bateau, ça vous envoie une confirmation avec un code QR. Et la très bonne raison pourquoi il n'y a pas d'information personnelle sur un code QR, il est transférable.
Toutefois, le maire n'a pas été en mesure de préciser quelles informations seront demandées lors du paiement, ni le déroulement exact de la vérification sur le quai du traversier ou à l'aéroport à la sortie du territoire. À quel moment et par quel moyen l'amende d'un maximum de 1 000 $ sera-t-elle délivrée? Pas de réponse ferme non plus. Le maire Valiquette souligne que la municipalité fera preuve de flexibilité quant à l'application de la mesure pour cette année test.
C'est l'année 1. On vérifie où est-ce que ça accroche. À la fin de l'été, on fait un constat, on fait un bilan puis on apporte des correctifs pour améliorer la situation. Ça, c'est clair.
Rappelons que la passe Archipel entre en vigueur le 1er mai prochain. La redevance touristique concerne toutes les personnes de 13 ans et plus ne possédant pas d'adresse aux îles et qui séjournent sur l'archipel plus de 24 heures. Les visiteurs devront débourser 30 $ plus taxes par personne ou 100 $ plus taxes par famille entre mai et la mi-octobre.
Plus de 36 000 $ seront versés aux îles par opération Enfant Soleil. Cette somme sera investie pour faciliter le parcours de soins des petits Madelinos, tant sur l'archipel que s'ils ont à en sortir pour être soignés. L'hôpital se procurera un moniteur de signes vitaux pour la néonatalité et 4 saturomètres adaptés aux enfants pour améliorer le suivi médical. 2 mannequins nouveau-nés pour la formation du personnel infirmier en pédiatrie seront également achetés. Une autre partie du montant sera utilisée par le programme Jeunesse L'Envol qui vise à soutenir les familles dont les enfants doivent être soignés à l'extérieur. Rappelons par ailleurs que Mathéo Arsenault et sa famille sont de nouveau les ambassadeurs d'Opération Enfant Soleil aux îles cette année. La 37e édition du Téléthon se tiendra le 2 juin prochain. L'an dernier, l'événement a permis de récolter 213 175 $ sur l'archipel. Et finalement, on dénombre 19 naissances de baleines noires de l'Atlantique Nord en 2023-2024. Les plus récents baleineaux ont été aperçus en février en compagnie de leur mère au large des côtes américaines. Le bilan est plus encourageant que celui de l'année dernière, alors que 12 petits avaient vu le jour. La saison des naissances est toutefois marquée par plusieurs décès. Fin janvier, l'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis a appris que le cadavre d'une jeune baleine s'était échoué sur le littoral de l'État du Massachusetts. La nécropsie a révélé que le spécimen avait vécu des empêtrements répétés avec des engins de pêche et était en mauvaise condition. Le mois suivant, l'organisation a rapporté la mort d'une seconde femelle juvénile dont les blessures correspondent à celles causées par une collision avec un navire. En mars, deux autres carcasses ont été retrouvées, vraisemblablement victimes d'événements semblables. Il s'agit d'un veau de l'année et d'une mère adulte. D'ailleurs, l'agence américaine surveille actuellement un mâle aperçu avec un cordage au niveau des mâchoires. Rappelons que la population de baleines noires de l'Atlantique Nord est considérée en voie de disparition. Voilà qui complète votre bulletin d'information. Ce midi à l'émission L'épreuve des faits, on discute de la grève qui a lieu dans plusieurs succursales de la SAQ, la Société des alcools du Québec à travers la province. On discute également du conseil d'administration du Centre de services scolaires des îles qui se tenait hier soir avec une entrevue de sa directrice générale Brigitte Aucoin. Et finalement, on parle environnement à propos d'un forum interrégional sur les risques côtiers qui aura lieu fin mai à Rivière-du-Loup. Mais pour le moment, la météo et les manchettes sportives.
Le Gala des Éloises de la Chambre de commerce des îles de la Madeleine est de retour pour son édition 2024 le 27 avril prochain au Centre récréatif de l'Étendue Nord. Enfilez votre plus belle tenue chic and glamour puisqu'une soirée haute en couleurs vous attend. Cocktail réseautage, repas gourmet, ambiance musicale, invités d'honneur, remise des trophées Éloises et performance du groupe Bordas. La Chambre de commerce des îles vous a préparé toute une soirée. Procurez-vous vos billets dès maintenant en visitant notre page Facebook de la Chambre de commerce ou en communiquant avec nous au 418-986-4111. Le Gala des Éloises 2024, une présentation de Cogeco ainsi que nos partenaires CTMA, Communauté maritime des îles, Caisse populaire des Jardins des îles, Hydro-Québec, Pascan Aviation et Bell Canada.
Ce mercredi, préparez-vous pour une soirée de pur plaisir au bingo de Havre-Maison. Le Centre des loisirs de Havre-Maison vous invite à la Maison de la culture pour vous offrir ainsi la chance de remporter des prix totalisant 2 500 $, dont un lot de 1 000 $ pour une carte pleine. Qui sait, cette semaine, c'est peut-être vous qui allez crier bingo et gagner gros. Bonne chance et amusez-vous bien ce mercredi 19h30. Une invitation du Centre des loisirs de Havre-Maison.
Le monde évolue, mais la série Commençons de Force Compétences au travail aide à s'adapter. Apprenez de nouvelles compétences et gagnez en confiance. La série Commençons est gratuite et facile à utiliser. Améliorez vos compétences pour le travail et la vie. Commençons à forcecompétencesautravail.ca.
La municipalité des Îles vous avise qu'en raison des conditions météo annoncées, la collecte du bac noir déchets prévue demain, jeudi, sur l'île de Havre-Aubert est reportée à ce vendredi, en même temps que la collecte à l'étendue nord. La municipalité des Îles vous remercie de votre collaboration.
Peu importe le temps qu'il fait, l'équipe de Proxime Lapierre et Lapierre vous accompagne à tout moment et vous présente les prévisions météo que voici.
À la météo, on nous prévoit un ennuagement tôt cet après-midi. Et ici à Lavernière, je vous dirais que c'est déjà commencé. Vent du sud-est de 20 km/h avec rafale à 40, maximum de plus 5. Ce soir et cette nuit, on nous prévoit un temps nuageux. Les averses de pluie débutant après minuit, puis se changeant en 30% de probabilité d'averses de neige en fin de nuit. Nappes de brouillard se formant ce soir et se dissipant au cours de la nuit. Vent d'est de 20 km/h avec rafale à 40, devenant du nord-ouest à 30 avec rafale à 50 ce soir, puis d'ouest à 40 avec rafale à 60 au cours de la nuit. Jeudi, on nous prévoit un temps généralement nuageux avec 30% de probabilité d'averse de neige. neige tôt le matin. Vent d'ouest de 50 km/h avec rafale à 70, maximum de 0. Refroidissement éolien de moins 11 le matin. Ça demeure plutôt frisquet. Vendredi, on nous prévoit une alternance de soleil et de nuages, maximum de plus 3. Et samedi, pour débuter la fin de semaine, alternance de soleil et de nuages, maximum de 7. Et dimanche, alternance de soleil et de nuages, un maximum de 8 degrés. Pour ce qui est des conditions actuelles, il fait en ce moment 4 degrés, avec un temps généralement nuageux selon les conditions enregistrées à l'aéroport des îles de la Madeleine, avec un vent d'est-sud-est d'une trentaine de kilomètres heure, rafale à 40.
Chez Proxim, la pierre et la pierre, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous simplifier la vie et pour profiter de celle-ci. Notre équipe de plus de 60 employés est présente pour vous jour après jour afin que votre expérience en magasin soit des plus agréables. Ils vous accueillent avec le sourire et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour vous offrir un service de qualité à la hauteur de vos attentes. Ouvert les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 18h, les mercredis et jeudis de 8h30 à 21h, ainsi que les samedis et dimanches de 9h à 17h, chez Proxim, la pierre et la pierre, on est là pour vous.
Ce segment sport vous est présenté par le Desport, votre concessionnaire Honda, et le camion Ridgeline 2024. Robuste à l'extérieur, élégant à l'intérieur. Honda, la puissance des rêves.
Au sport, d'abord dans les matchs de la préliminatoire dans la Coupe Stanley, l'arrêt spectaculaire de Sergei Bobrovski a finalement été une cause gagnante. Gater Verhaeghe a marqué du revers à 2 minutes 59 en prolongation et les Panthers de la Floride ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 3-2, prenant l'avance 2-0 dans cette série du premier tour de l'Est. Le match numéro 3 aura lieu ce jeudi soir à Tampa. Mika Zibanejad a amassé un but et une aide pour mener les Rangers de New York vers une victoire de 4-3 aux dépens des Capitals de Washington mardi soir. Zibanejad a inscrit le premier de 3 buts sur les unités spéciales pour les Rangers, qui ont pris les devants 2-0 dans cette série. Cette dernière se transporte maintenant à Washington, où le troisième duel aura lieu vendredi soir. Arturi Lehkonen a inscrit un but et une passe alors que l'Avalanche du Colorado a prévalu 5-2 contre les Jets de Winnipeg, égalant cette série au premier tour à un gain de chaque côté. Le Colorado a pris les commandes avec 3 buts sans réplique dans la seconde moitié de la deuxième période, à commencer par le filet de Lehkonen. Miles Wood, Zach Parise et Josh Manson et Valeri Nichushkin, avec un filet désert, ont également marqué pour l'Avalanche. Les hostilités vont reprendre ce vendredi soir à Denver. Philippe Forsberg a inscrit un but et une passe alors que les Predators de Nashville ont gagné 4-1 face aux Canucks de Vancouver mardi, nivelant à 1-1 cette série de première ronde dans l'Ouest. Anthony Beauvillier a ajouté un but et une passe pour Nashville. Colton Sissons et Kiefer Sherwood ont également trouvé le fond du filet pour les Predators. Jussi Saros a réalisé 17 arrêts, ne cédant que devant Nikita Zadorov. La troisième rencontre sera présentée également vendredi au Tennessee. Et finalement, dans la Ligue professionnelle de hockey féminin, l'équipe de Montréal est au seuil des séries éliminatoires de la Ligue professionnelle de hockey féminin. La confirmation pourrait venir dès mercredi soir à l'Auditorium de Verdun avec une victoire en temps réglementaire contre l'équipe de New York lors de ce qui sera le dernier match à domicile de la formation montréalaise cette saison. Au premier regard, les statistiques favorisent largement la troupe de Cory Cheverie. Avec encore 3 parties à jouer, Montréal totalise 35 points et occupe le deuxième rang du classement, à égalité avec le Minnesota. De son côté, la formation de New York croupit au dernier échelon avec seulement 20 points. Voilà, c'était vos manchettes sportives.
L'événement Formule Gagnante, c'est l'événement qui vous met au volant d'une valeur gagnante Honda, comme le Honda HR-V. Le Honda HR-V offre un style excitant, une polyvalence incroyable, ainsi que la qualité et fiabilité Honda. Parfait pour vos courses en ville comme pour vos sorties de fin de semaine. Le HR-V est en location à partir de 105$ par semaine, avec 0$ en à-compte. L'événement Formule Gagnante, chez Le Desport, votre concessionnaire Honda. Si vous magasinez pour une valeur gagnante, choisissez notre notre gagnant, le Honda HR-V.
La mise à l'eau des cages, une présentation des caisses Desjardins des Îles.
Ici Louis-René Briand et Claude Vigneault. On vous attend à la Salicorne vendredi le 26 avril pour le 5 à 7 des pêcheurs. Il y aura le dévoilement de la programmation et les invités à la vigie pour la mise à l'eau 2024. Bienvenue à tous.
Merci à la SADC et au gouvernement du Québec.
Marquez bien votre calendrier chaque dernier jeudi du mois, car c'est le moment où la Légion canadienne double le gros lot de son bingo hebdomadaire afin de vous faire gagner 2000 $. Donc ce jeudi soir, 21h, n'oubliez pas d'ouvrir votre télé au canal 2 ou 102 de Derry propulsé par Cogeco afin d'être prêt pour le bingo de la Légion diffusé en simultané à CFIM. Et lorsque vous aurez carte pleine, en plus de crier bingo, appelez le 418-969-1340. C'est donc un rendez-vous ce jeudi soir, 21h, au canal de télévision 2 et 102 pour courir la chance de gagner 2000 $ au bingo de la Légion canadienne, aussi diffusé à CFIM.
Continuait dans quelques jours, les au revoir feraient partie de notre quotidien. Aux quatre coins de la province, nos différents chemins se traçaient. C'est pas de quoi qu'on apprend à l'école, y'a pas vraiment de mode d'emploi. D'un jour à l'autre, c'est différent. On doit s'y faire, on n'a pas le choix. On se réveille dans une autre ville, ayant laissé derrière les siens. Mais on sait que dans quelques mois, on se réunira enfin. En Gaspésie ou en Saint-Pierre, à Québec, aux Îles-de-la-Madeleine, à Rimouski, à Drummondville, et même quelque part en quarantaine. Les kilomètres qui nous séparent n'ont pas changé notre amitié. Laisse-moi dire, c'est pas la distance qui va nous éloigner. Peu importe on est rendu où, c'est un peu la même chose pour tous. On vit des deuils, on vit des peines, on passe par quelques petites frousses. Mais quand les temps sont difficiles, on voit plus le bout de nos problèmes. On sait que malgré qu'ils soient loin, les chums sont toujours là quand même. On fait notre vie, on trace notre chemin, chacun, chacune de notre côté. Heureusement la vie est bien faite, on réussit à se retrouver. De temps à autre ici et là, on partage des moments complices. Chaque minute passée ensemble prouve qu'on veut jamais que ça finisse. En Gaspésie ou en Saint-Pierre, à Québec, aux Îles-de-la-Madeleine, à Rimouski, à Drummondville, et même quelque part en quarantaine. Les kilomètres séparent, on peut changer notre amitié. Laisse-moi dire que c'est pas la distance qui va nous éloigner. Je compte les jours avant de vous voir, avant qu'on se retrouve au chalet. On aura tant de choses à se dire, des tonnes de fous rires, je vous promets. Je sais que dès qu'on se reverra, on va voir que rien n'a changé. C'est comme si on s'était vu la veille et qu'on s'était jamais laissé. Loin des yeux, mais pas loin du cœur. Mes amis, je veux vous remercier d'être présent quand la vie est belle. Ou quand je vais tout laisser tomber. L'amitié n'a pas de frontières ou bien de date d'expiration. Je sais que la nôtre est plus forte que tout. Je vous aime, je peux pas vous dire comment. En Gaspésie ou en Saint-Pierre, à Québec, aux Îles-de-la-Madeleine, à Rimouski, à Drummondville, et même quelque part en quarantaine.
kilomètres qui nous séparent ont pas changé notre amitié. Laisse-moi te dire que c'est pas la distance qui va nous éloigner. Dans deux jours ou bien dans deux semaines, dans deux mois ou bien deux années, on va être de nouveau ensemble et je vais pouvoir vous raconter. Chaque jour je pense à vous et je suis dans fière notre amitié. Comment chaque jour je pense à vous et je suis dans fière notre amitié.
Ici François Delisle au micro. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'épreuve des faits. Pour ce premier segment, je suis rejoint par Laurence Damioul. Bonjour Laurence.
Bonjour François.
Alors Laurence, on apprenait dans les médias nationaux ce matin que les succursales de la SAQ à travers la province étaient en grève aujourd'hui et demain. Et tu t'es entretenu justement, tu as réalisé une entrevue pour en savoir davantage.
Oui, ça me permet d'ailleurs de glisser un mot donc sur la situation. En fait, clairement à la succursale de Cap-aux-Meules, donc ne faites pas le saut. La succursale en fait est fermée pour deux jours. Donc, il y a bel et bien ligne de piquetage devant, mais la succursale en elle-même est fermée. Donc, les syndiqués qui se mobilisent, en fait, pour demander une amélioration des conditions de travail, en fait, d'améliorer l'aspect normatif de leur travail, donc les horaires, les conditions, puis surtout s'attaquer à la précarité d'emploi, comme va me l'expliquer Edith Bélanger, qui est déléguée syndicale du Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ, affiliée à la CSN. Donc, je lui ai tout d'abord demandé ce matin de me résumer, en fait, ben, d'où tout ça était parti. Voici sa réponse.
Notre convention collective est expirée, est issue depuis plus d'un an maintenant. Et on est en négociation, donc, évidemment, depuis avant ça. Et il n'y a toujours pas d'avancée significative là, du niveau de l'employeur pour qui est de nos ententes pour la Russie.
Dans le communiqué, on parle donc que ça achoppe au niveau des aspects normatifs de la convention. Qu'est-ce qu'on entend par aspect normatif?
Ben, c'est tout ce qui est côté les horaires, les conditions de travail, les assurances collectives. C'est 70% de nos employés de succursales sont considérés temps partiel, donc sont sur une horaire instable à chaque semaine, sont sur le téléphone à attendre de savoir s'ils vont travailler aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'heure garantie. Donc, des fois, il y a des semaines qu'ils vont pas travailler du tout. Donc, c'est très, très instable. Là. Et le premier ministre a mentionné qu'en haut de 50%, une entreprise ne pouvait pas fonctionner à ce titre. On est à plus de 70% de nos employés. Donc, il y a vraiment quelque chose de problématique là, de ce côté-là.
Oui, on comprend donc que la précarité d'emploi est au cœur des discussions, des négociations. Donc, près de 70 % des employés de la société d'État à temps partiel et sur appel. Qu'est-ce qu'on exige là, dans ces négociations-là?
Bien, on demande d'avoir tout simplement là, une gestion un peu plus humaine de nos horaires, de nos conditions de travail, un côté flexibilité aussi, un peu plus ouvert de la part de l'employeur pour avoir une conciliation travail-famille un peu plus facile là, pour nos syndiqués.
J'imagine que tout ça aussi ajoute donc à la précarité d'emploi. Si on est sur appel, c'est difficile, ça doit être difficile en fait d'arriver, de faire arriver les deux bouts.
Exactement. Et quand que ça prend plus de 12 ans quasiment en moyenne pour avoir une stabilité d'emploi avec un emploi régulier, donc un poste dans une succursale fixe, avec un garantisseur. 12 ans, c'est énorme. Et quand ça prend 7 ans en moyenne pour aussi faire partie d'une partie de l'assurance collective qu'on a droit, c'est aussi beaucoup de précarité là, dans tout ça.
Et donc, pourquoi, à votre avis, la SAQ maintient en fait un grand bassin d'employés à temps partiel sur appel plutôt que de faire bouger un peu, au moins une partie des gens vers des postes permanents, par exemple?
faudrait leur demander. J'imagine qu'il y a une bonne raison de maintenir comme ça, même si ça n'a aucune logique pour le premier ministre.
Dans le communiqué, on parle aussi de l'avenir des emplois. On a d'autres demandes, notamment d'améliorer l'accès du personnel à de la formation, d'augmenter le nombre de conseillers, de coordonnateurs en succursale. Est-ce que ce sont aussi des demandes qui sont faites dans le cadre des négociations ou c'est adressé plus largement à l'employeur?
C'est aussi dans les négociations. Il y a quand même eu 64 postes d'abolis cette année en termes d'emplois réguliers. Ça répond à ça.
Un petit point aussi sur la préparation en magasin des commandes Internet. C'est donc le personnel aimerait pouvoir le faire en succursale plutôt que ce soit le centre de distribution de Montréal, en fait, qui gère les commandes pour tout le Québec. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus de ce côté-là?
Bien, de ce côté-là, c'est très facile. En région éloignée, les Gaspésie et la Madeleine, on a besoin d'avoir plus d'emplois, plus de postes ouverts de pouvoir faire les commandes quand le client a besoin d'un produit, puis que la commande, c'est des produits qu'on tient dans notre magasin. Si on est capable de les faire sur place, bien, ça évite de perdre des emplois de notre côté.
On écrit aussi que le souhait de la direction cherchait à faciliter la fermeture de succursales en région afin de les remplacer par des permis privés inquiète donc les syndiqués. Quel est en fait l'enjeu de ce côté-là? On dirait que moi, ça vient un peu me surprendre, Mme Bélanger.
Bien, en fait, c'est le côté de nos compétiteurs, c'est les agences. Dans les régions éloignées, il y a plus d'agences SAQ que de succursales SAQ. Donc, est où la logique dans ça?
Donc, on a la crainte que ça vienne générer un recul d'emploi encore plus grand, par exemple?
Exactement.
Donc là, on est en grève aujourd'hui, Mme Bélanger. Il y a des discussions, semble-t-il, en ce qui a trait à du débrayage demain aussi. Est-ce que les syndiqués vont être en grève demain ou on en est encore à réfléchir là-dessus?
Ce sera à suivre.
Qu'est-ce que ça prendrait pour éviter donc une seconde journée de grève?
Que l'employeur soit constant et accepte de négocier. Puis en même temps, ben, la chose à se souvenir, c'est que de passer une ligne d'hôpital, c'est pas une façon d'aider la cause non plus.
Oui, donc parce que ce ne sont pas toutes les succursales, en fait, qui sont fermées dans la province actuellement, si je comprends bien.
Non, il y en a quelques-unes qui vont être opérées par les directeurs.
Est-ce qu'il y a d'autres journées de grève à l'horizon? Du moins, est-ce qu'on possède cet outil-là d'autres journées dans sa manche du côté du syndicat?
On a voté pour 15 jours décomposables, donc on utilise la première journée aujourd'hui.
Pour terminer, Mme Bélanger, qu'est-ce que doivent retenir les auditeurs madelinaux, donc du débrayage qui a débuté aujourd'hui du côté des employés de bureaux et de magasins de la SAQ?
De tout simplement soutenir les employés de la SAQ. On est là, vous êtes contents du service que vous recevez, donc faut simplement respecter les journées de grève, de ne pas passer les lignes de piquage et de soutenir nos moyens de pression.
Édith Bélanger, déléguée régionale du SEMB-SAQ-CSN. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Merci à vous.
Donc, première chose, François, donc je me doute qu'il n'y aura pas d'avancée significative à la table de négociation d'ici la fin de la journée. Donc, on peut prendre pour acquis qu'il y a bel et bien une deuxième journée de grève demain. Et je le rappelle, la succursale de la SAQ de Cap-aux-Meules est fermée aujourd'hui et donc demain également. Puis d'ailleurs, Mme Bélanger était en direction de Montréal, en fait, puisqu'il y a mobilisation aujourd'hui pour les quelques 5000 employés de magasins et de bureaux de la SAQ, donc partout au Québec, mais mobilisation à Montréal. Et on peut aussi remarquer une ligne de piquetage du côté de Cap-aux-Meules.
Oui, exactement. Je me suis rendu sur le terrain de la succursale locale pour pouvoir aller discuter avec les membres du syndicat qui sont en grève aujourd'hui. Je me suis entretenu avec Jean-François Godet, qui est coordonnateur des activités de la succursale, pour savoir qu'est-ce qu'il en pensait et combien d'employés ça affectait aux îles. Voici une brève réponse où il nous explique quels sont les employés touchés ici.
On est 7 employés. Il y a 3 employés à temps complet et puis le reste à temps partiel, donc un peu plus de 50%. On a vraiment beaucoup de besoins l'été, donc on engage souvent des étudiants, des fois des retraités. Il y a un statut particulier qu'on appelle saisonnier ou occasionnel. Donc, ils commencent à travailler quelque part au début juin et puis ils doivent quitter à la fin août.
Alors, je recorrige son titre, que j'ai échappé, le coordonnateur des opérations en succursale, Jean-François Godet. Je lui ai également demandé comment est-ce qu'il voyait le pouls de la situation pour les employés aux îles. Qu'est-ce qu'il considérait important dans la présente négociation? Voici sa réponse.
En fait, je sais que ce qui est beaucoup important, c'est la stabilité des emplois et surtout, il y a beaucoup d'employés à temps partiel là, qui peuvent se ramasser avec 0 heure par semaine. Là. Donc, la précarité est, selon ce que j'en sais, au cœur de l'enjeu là, présentement. Là. En fait, évidemment, ça joue pas mal plus haut que nous, là, aux îles ici, là, c'est à travers la province. Mais je pense qu'il y a une bonne mobilisation, là. On le sait que les temps sont pas faciles pour tout le monde, là. Donc, s'ils ont décidé de sortir, je pense qu'ils ont des bonnes raisons, là. Ça fait quand même plus d'un an, là, que la convention est terminée.
Et tu sais, Laurence, d'ailleurs, cet enjeu de l'organisation du travail, justement, dans les succursales, ça touche les îles d'une façon particulière aussi, parce que à cause de l'aspect très saisonnier des activités de la succursale, il passe d'un roulement qui va vers les succursales les moins grosses de la Société des alcools du Québec, les Express, à un roulement qui va vers les succursales les plus achalandées du Québec, les sélections. Donc, ça fait qu'ils ont besoin d'employés supplémentaires et ça joue même sur ça touche même d'autres enjeux des îles comme la crise du logement. Il y a une employée qui était présente, qui est une employée à temps partiel, qui me disait qu'elle aimerait bien rester l'été pour travailler durant la saison estivale, mais que comme elle n'a pas accès à un logement l'été, elle doit quitter et donc à chaque année, elle doit remettre sa démission et reprendre le processus d'embauche par la suite et perdre tous les avantages d'ancienneté ou tout ça qu'elle aurait accumulé.
C'est quand même un exemple très criant donc du multifacette en fait de cet enjeu-là, François. Et on rappelle donc que les syndiqués se sont dotés d'un mandat de grève de 15 jours décomposable. Donc aujourd'hui, demain, on en est à 2. Il en restera 13 autres donc à utiliser à leur bon sens si les négociations n'avancent pas à leur goût.
Merci beaucoup, Laurence.
Au plaisir.
Ce jeudi, à votre émission matinale Debout les îles, on retrouve toute l'équipe, Véronique Harvey, Raphaël Lapierre et Jean Chevary avec son invité Anaïs Jonfe. On va également discuter avec Alexandre Lavoie, directeur de la Chambre de commerce des îles, en temps de la soirée des Éloises qui s'en vient cette fin de semaine. Dès 6h, dès votre réveil, branchez-vous sur les ondes du son de la mer.
On a fait l'histoire ensemble et mis en mémoire des rêves qui nous ressemblent. Toi et moi, on a fait le feu au départ, loin des feux et des étendards que rien ne nous sépare. Se gardera le droit d'être heureux. Toi et moi, on les oubliera pour toujours. Les grands mots et les beaux discours qui ne parlent pas d'amour. Malgré la peur de se brûler les ailes.
Alors, je suis en compagnie de Raphaël Lapierre pour ce deuxième segment. Bonjour, Raphaël.
Bonjour, François.
Alors, Raphaël, hier, il y avait conseil d'administration du Centre de services scolaires des Îles.
Oui, François, et c'était une réunion, somme toute, assez succincte. Là. La grande majorité des points, c'était des points purement administratifs. Là. Changement de numérotation, de documents là, en lien avec la, comment on le classifie, là, finalement. Donc, c'était beaucoup de la poutine administrative, mais somme toute, à travers bon les différentes résolutions qui ont été adoptées, il y avait des éléments en lien avec le plan triennal donc pour les immeubles. Et ça, à travers cette planification-là, c'est là que souvent on apprend la planification en termes de fréquentation scolaire. Et ce qu'on voit dans les données du Centre de services scolaires des Îles, qu'on nous expliquait qui était quand même, somme toute, conservatrice dans le calcul, là, c'est qu'on anticipe une hausse assez importante de la fréquentation scolaire, là, presque 15% plus d'élèves d'ici 3 ans. C'est quand même assez impressionnant. Et l'autre élément qui sort un peu de l'ordinaire, c'est que c'est beaucoup dans les extrémités que la population scolaire, elle augmente. C'est sûr qu'on partait de très loin dans certains cas, mais pour vous donner une idée, à l'école du côté de Grande Entrée, là où, il n'y a pas longtemps, on parlait d'une quinzaine d'élèves, on anticipe là, qu'en 2027, on pourrait être autour de 65, ce qui est quand même une différence assez importante. On est autour d'une quarantaine là, en ce moment, donc ça donne quand même une idée là, du fait qu'on s'en va dans cette direction-là. Comment on le calcule, ça, je vais le préciser parce que je suis pas rentré là-dedans dans l'entrevue avec Mme Aucoin, mais en gros, c'est pas très compliqué. Là, on prend la fréquentation actuelle, on fait vieillir tout le monde d'un an, donc éventuellement, les finissants, on les enlève de l'équation, et ensuite, à partir, ou bien des données démographique, que ce soit à l'Institut de la statistique du Québec, les données que les CPE ont, par exemple, ben là, on est capable d'évaluer combien il devrait y avoir de nouvelles entrées à l'école. Puis c'est comme ça là, qu'on fait de la planification. Mais donc, comme c'était pas mal l'élément qui ressortait, l'entièreté de l'entrevue avec Mme Aucoin tourne autour de ces dynamiques-là démographiques puis de ce que ça implique pour le Centre de services scolaires. Donc, écoutons les propos de Brigitte Aucoin, directrice du Centre de services scolaires des Îles.
Oui, effectivement, ce qu'on a comme prévision là, pour nos clientèles là, jusqu'à 2026-2027, on passerait de environ 1190 élèves à 1300. Ce sont des prévisions, évidemment, qui nous apparaissent quand même intéressantes. On est plus dans la... On a vécu quand même une décroissance il y a plusieurs années, une stabilité par la suite, mais là, vraiment, on accueille plus d'élèves pour les prochaines années, là, selon les prévisions.
Justement, est-ce que vous avez le chiffre de à quel niveau ça avait plafonné, tu sais, par rapport, à exemple, le moment où on avait le plus de fréquentation scolaire aux Îles, ou sensiblement pas obligé d'être le chiffre numéro un, là, mais ça, tu sais, ça se compare comment avec avant que ça diminue, justement?
On avait, j'ai pas les données exactes là-dessus, je pourrais les trouver par ailleurs, mais quand je suis rentrée en poste comme DG, on avait quand même vécu dans les années là, une perte de 30% de la clientèle. C'était quand même majeur, ça a nécessité vraiment des ajustements sur l'organisation scolaire. Mais là, j'ai pas ces données-là pour dire là, de c'est quoi la baisse significative. Mais depuis des années, on tourne autour de 1100 élèves là, au secteur jeune et aux adultes et à l'ASP. Ça fait que c'est cette croissance-là, particulièrement dans des écoles comme Notre-Dame du Sacré-Cœur, on se souviendra que c'est une école qui est venue là, quand on a perdu beaucoup d'élèves, cette école-là en particulier, on est venu à 14 élèves. Il y avait vraiment une volonté politique à ce moment-là du Conseil des commissaires de maintenir l'école ouverte, ce qui a été vraiment une bonne décision aussi. Là. On s'entend que c'était un village, perdre une école, ça aurait été dramatique. Mais là, il y a eu vraiment une démographie, du plan démographique, et une augmentation qui fait que pour la prochaine année, on anticipe être autour de 40 élèves. Et puis, à terme des 3 années là, qui viennent, jusqu'à 65 élèves, là, si les prévisions se concrétisent, alors on est à peu près au même niveau que l'école Osiris était. L'école Osiris, on approchera une centaine d'élèves dans 3 ans. Fait que c'est nos petites écoles, là, vraiment, c'est une organisation scolaire facilitée là, par par avoir plus d'élèves. C'est beaucoup plus intéressant aussi pour les élèves eux-mêmes d'être dans des groupes plus nombreux. Puis, fait que ça, pour nos écoles des extrémités, c'est très positif.
Ça, on sent qu'il y a une tendance au niveau démographique, particulièrement dans les extrémités, qui a l'air de s'être, disons, renversée là, quand même au cours des dernières années.
Oui, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.
Un élément que j'ai remarqué aussi dans les chiffres plus en détail, par école, il y a l'école Saint-Pierre qu'on anticipe à un certain point une diminution vers la fin là, justement de la planification vers 2027, là, alors que toutes les autres semblent juste être en train de monter. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi l'école Saint-Pierre, on anticipe qu'éventuellement ça va peut-être diminuer la fréquentation?
Bien, actuellement, si on compare, à cette année, ça va être une stabilité relative quand même. Mais c'est sûr que le fait que la maternelle 4 ans ne soit pas offerte à Saint-Pierre, ça change la donne. Les parents de Saint-Pierre vont plutôt utiliser le service 4 ans. Alors, c'est sûr que ça, dans la clientèle, ça fait une différence. Puis, on se souvient que l'école Saint-Pierre... c'est vraiment une question d'espace. Là, pour ouvrir un groupe 4 ans actuellement, on ne pourrait pas dans les espaces actuels. On s'est présenté au ministère là, pour un ajout d'espace, mais on est quand même réaliste là, sur la période d'attente pour avoir notre réponse positive, parce que dans le réseau, il y a vraiment beaucoup de besoins. Fait qu'on est réaliste que ça ne sera pas demain là, la veille pour l'ajout d'espace. Alors, selon moi, là, sans avoir fait une analyse très poussée, c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de classe de maternelle 4 ans à Saint-Pierre. Ça pourrait faire la différence. Alors qu'à Stella Maris, par exemple, on voit beaucoup, il y a eu une forte augmentation du préscolaire, maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, puis le premier cycle du primaire, là, on a vraiment beaucoup d'élèves là, dans ce secteur-là. Beaucoup plus, en tout cas.
Peut-être comme centre de service scolaire, bon, qui a eu justement à vivre avec une baisse démographique dans les dernières années, là, de sentir que ça repart dans l'autre sens, qu'est-ce que ça envoie comme message, puis comment c'est un peu reçu par l'organisation, là, comment on se réajuste face à cette tendance-là qui s'est finalement renversée?
Oui, ben c'est sûr que ça faut savoir que malgré la baisse importante des clientèles, on a toujours maintenu, voire augmenté les services directs aux élèves. Il y a bien sûr l'enseignement, c'est paramétré. Alors, si la clientèle baisse, il y a moins de groupes, il y a moins de titulaires, d'enseignants titulaires. Mais au niveau des services autres, vous le disiez tout à l'heure, là, tu sais, la répartition des services éducatifs est maintenu dans toutes les écoles et vraiment en termes de services en orthopédagogie, techniciens en éducation spécialisée, les services professionnels, les préposés. Ça, c'est un secteur où ce qu'on est allé en augmentation constante malgré la diminution de clientèle qui vient aussi, on va se le dire, avec une diminution de financement. Fait que ça, on est très fiers de ça, d'avoir fait ce choix budgétaire-là. Certaines années, ça a été quand même assez compliqué au niveau budgétaire, mais on y est arrivé. Puis on se dit que c'est pas étranger non plus à notre taux de diplomation, qui est quand même parmi les meilleurs au Québec, d'investir beaucoup dans les services pour venir soutenir l'enseignement. Ça a été pour nous un choix, une priorité qu'on a maintenu, puis qui donne des résultats. C'est de voir notre clientèle augmenter, ça nous rend juste plus confortable à maintenir ces services-là. Puis, comme je vous dis, dans nos petites écoles, ça vient aider à l'organisation scolaire. Puis, je vous dirais pas, tu sais, qu'on a beaucoup de multiniveaux encore, parce que par la force des choses, on n'a plus la clientèle qu'on avait dans les années où il y avait des groupes seulement d'un niveau. On fait beaucoup de multiniveaux, des classes de première, deuxième, troisième. Mais c'est sûr que quand on a plus de clientèle, ben ça nous rend plus confortable pour une organisation scolaire qui est optimale, puis qui évite d'avoir là, c'était comme à grande entrée, on était rendu à du triple niveau. Donc c'est quand même compliqué quand on arrive avec des groupes d'élèves plus bas. Mais on a toujours ajouté des services pour s'assurer que les élèves qui sont dans ces écoles-là aussi aient la même qualité de service. Puis c'est là-dessus, je vous dirais, là, qu'on peut, quand on regarde ça avec du recul, que ça a été des décisions judicieuses là, de faire ces choix-là.
Puis j'imagine que ça renforce aussi, disons, cette idée que c'est important, malgré la baisse d'effectifs, de maintenir ces écoles-là dans les villages, parce qu'on voit la tendance finit par se renverser. Donc ça vient donner un peu de poids à cet argument-là que ne serait-ce que par principe, garder les écoles ouvertes, les garder actives, ben au final, la tendance, ça peut se renverser, alors qu'à une autre époque, ben une décision différente aurait pu être prise lorsque l'école était tombée à 14 d'effectifs, par exemple. Mais est-ce que ça montre un peu que c'était la bonne stratégie de continuer finalement d'offrir ces services-là dans les écoles?
Oui, effectivement. Puis je dirais quand on a passé les années plus difficiles, parce que tu sais, il y a eu quand même, on s'est un petit peu cassé la tête durant ces années-là, mais je dirais aussi un partenariat solide avec le milieu aussi. Uh-huh. Le village de Grande Entrée, il y a quand même des gens qui ont travaillé, il y a une prise en charge par le milieu qui était beaucoup, qui s'assoyait avec nous puis qui regardait les solutions puis comment, tu sais, comment être attractif, comment garder nos jeunes là, qui ont fondé des familles. Fait qu'il y a eu ça, moi je trouve que c'est digne de mention qu'un milieu comme ça a pu faire tout ce qui était en son pouvoir pour valoriser le fait de rester dans le milieu, de fonder des familles, de se construire. Puis pour nous, ben, c'est sûr que ça a été un partenariat excessivement déterminant pour la suite. C'est sûr que le mariage avec la communauté est essentiel pour vraiment passer à travers les années plus difficiles. Puis effectivement, là, le ce qu'on voit aujourd'hui, ça a donné raison là, aux décisions de l'époque.
Brigitte Aucoin, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Envie de relever de nouveaux défis? Vous souhaitez développer des compétences pour occuper un poste supérieur? Lucar offrira dès l'automne le certificat en gestion des ressources humaines et le certificat en psychosociologie aux Îles-de-la-Madeleine à temps partiel en formule intensive sur 3 fins de semaine par trimestre. En plus d'une vingtaine de programmes proposés à distance, ces nouvelles formations sont offertes par Lucar chez nous aux Îles. Informez-vous à uqar.ca/îles.
Ici François Delisle au micro, il est midi 47 minutes sur les ondes de CFIM. Pour ce dernier segment de l'émission L'épreuve des faits, je vous parle d'environnement, car il y a un forum interrégional des risques côtiers qui aura lieu à Rivière-du-Loup à la fin mai. Et c'est un événement qui est organisé par les conseils régionaux en environnement du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, ainsi que par le regroupement national des conseils régional de l'environnement du Québec. C'est donc la tenue d'un tout premier forum interrégional sur les risques côtiers qui cherche à évaluer l'aspect humain de ce problème qui s'attaque à différentes régions du Québec. Pour en savoir davantage, je me suis entretenu avec l'organisatrice du forum, Julia Santos Silva, qui est agente de projet et coordonnatrice du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent. Je lui ai d'abord demandé de m'expliquer quel était ce forum et voici ce qu'elle m'a répondu.
Oui, bien, dans le fond, les forums interrégionaux, il y a une initiative des conseils régionaux de l'environnement. Nous, on a les conseils régionaux de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, mais on travaille avec 5 autres conseils de l'environnement, dont celui aux Îles-de-la-Madeleine, qui est l'ancien organisme Attention Fragile. Donc, l'idée, c'était d'aborder les sujets des risques côtiers sous l'angle humain, sur une perspective humaine. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font au Québec par rapport à ces sujets-là, par rapport à cette problématique-là. Donc, on aimerait finalement faire une sorte qu'on puisse s'y réunir pour faire un peu les points sur ces sujets, puis aussi mettre sur la table l'enjeu
humains, parce qu'on les sait, bon, c'est des phénomènes, l'érosion, la soumission côtière, on le sait que c'est des phénomènes, bon, biophysiques, mais il y a tous les temps l'aspect, justement, des populations qui sont affectées, donc de parler de nos expériences. L'idée, c'est de parler de nos apprentissages et finalement de concerter nos efforts. Donc, c'est vraiment une initiative des conseils régionaux de l'environnement afin de concerter les efforts de tout le monde, sous cet angle-là.
Et qui est-ce qui sera présent? Est-ce que ça va être surtout des professionnels, des scientifiques, des experts ou des décideurs politiques? Qui est rassemblé lors de ce forum?
Bon, notre public cible, c'est principalement les MRC, les municipalités. On a aussi les gestionnaires et professionnels des ministères, des acteurs socio-économiques. C'est sûr qu'il va y avoir aussi des élus, donc les gens au niveau politique. On invite aussi certains, on invite des députés aussi à venir. Donc, c'est vraiment un forum qui va réunir ces trois catégories-là, si on peut dire, ces publics cibles-là. Et aussi les milieux politiques. Il va y avoir aussi la présence des scientifiques, des personnes qui travaillent à l'université, qui ont des projets de recherche aussi au forum. Là.
Quelles seront les personnes de l'archipel des îles de la Madeleine qui participeront au forum?
Bon, on va avoir Jasmine Solomon, qui est chef de section en action climatique, pardon, à la municipalité des îles de la Madeleine, qui va venir nous parler un peu du cadre municipal d'intervention en érosion et submersion côtière qui a été élaboré aux îles. Donc, elle va être présente lors de la plénière sur des exemples inspirants d'adaptation. Puis, la deuxième personne, c'est la docteure Marianne Papillon, qui va venir nous parler justement sur des enjeux de santé en lien avec les risques côtiers, donc des impacts psychosociaux puis des outils pour y faire face.
Et quels sont les thèmes qui vont être abordés lors de ce forum?
Oui, on a quatre thèmes. La prise de conscience et acceptation des risques côtiers climatiques. Le deuxième, c'est la santé mentale en contexte de changement climatique, parce qu'on le sent vraiment que c'est un sujet émergent. Les solutions basées sur la nature. On va parler de leurs valeurs sociales et financières aussi, si on parle des actifs naturels. Puis aussi, on a des exemples régionaux inspirants à l'adaptation, donc parler des bons coups.
Et dites-moi, si on fouille un peu plus sur les différents thèmes, là, quand on parle de prise de conscience et acceptation des risques côtiers et climatiques, quel genre de sujets vont être abordés dans cette thématique?
Oui, on va voir trois ateliers, parce que le forum, il va avoir pas mal d'ateliers, donc des courtes présentations, mais beaucoup des temps aussi pour les échanges entre les participants. Puis pour les thèmes de prise de conscience, on va avoir trois ateliers où on veut aborder, par exemple, comment amener les élus, les fonctionnaires, les citoyens, par exemple, à reconnaître, à vivre et à agir face au risque côtier. Donc, au niveau aussi de la prise de décision, comment prendre des décisions collectivement, on est beaucoup intéressé à la démarche. On le sait que pour avoir vraiment une réussite, un succès dans les solutions qu'on va élaborer, c'est important vraiment de prendre en considération la réalité des territoires. Donc, cet aspect-là nous intéresse. On va avoir aussi la question de la communication. Donc, comment communiquer les risques climatiques côtiers, puis aussi les solutions privilégiées ou discutées dans des espaces de concertation. Puis aussi, on aimerait aborder aussi les volets prévention et coût de l'inaction. Ça veut dire, si on fait rien, mais qu'est-ce que ça peut représenter au niveau économique? Donc, d'où l'importance, on aimerait sensibiliser à l'importance d'agir face à ces risques côtiers-là. Puis vous, aux îles de la Madeleine, c'est pour nous, c'est un exemple. Vous avez quand même pas mal de réflexions très poussées là-dedans. Puis je pense que c'est vraiment une expérience qu'on peut apprendre de vous aussi.
Et deuxième thème pour lequel je serais curieux d'en savoir un peu davantage, c'est justement celui-là sur la santé mentale en contexte des changements climatiques. Est-ce qu'il va y avoir une intervention de la santé publique, par exemple?
Oui, effectivement, il va y avoir une intervention de la santé publique, la direction de la santé publique de la Gaspésie et de la Madeleine, donc qui vient nous parler justement des impacts de l'érosion et de la submersion côtière, bien, comment on peut agir, donc quels sont les outils qu'on a pour faire face à cet enjeu-là, parce qu'on le sait, bon, l'érosion côtière, on a des gens qui vivent sur la côte, bien évidemment, puis ces décisions vont avoir justement un impact sur leur vie. Donc, aussi l'imminence des phénomènes. Donc, on se préoccupe par rapport à la prochaine tempête, qu'est-ce qui peut arriver. Donc, comment on peut faire pour finalement accompagner ces personnes-là, puis aussi prendre en considération cet enjeu de la santé.
Le troisième thème des solutions basées sur la nature, qu'est-ce qui va être inclus dans ce thème-là?
Bon, premièrement, on va voir une conférence sur comment peut-on évaluer financièrement les bénéfices de ces types de solutions, des solutions basées sur la nature, donc la conservation et la restauration des milieux naturels, donc un peu pour les municipalités émergées avoir une idée par rapport à ces volets financiers et sociaux-là. Deuxièmement, on va voir un exemple d'une collaboration, d'un projet de restauration avec des communautés autochtones, donc aussi au l'Est du Québec. Donc, on apprend un peu à comment faire ce type de projet avec les partenariats de ces communautés autochtones-là. Puis, troisièmement, on va voir un exemple, dans les fonds, un projet qui au Barachois de la Malbaie, en Gaspésie, qui va être présenté par Conservation de la Nature Canada, donc la nature comme solution. Là.
Qui finance la tenue de ce forum interrégional?
Oui, le forum il est financé par les gouvernements du Canada, en bonne partie. On a aussi eu nos commanditaires. Dans les fonds, on a l'appui financier de Desjardins, Tourisme Rivière-du-Loup, les Mercier de Rivière-du-Loup, CSN du Conseil central du Bas-Saint-Laurent, la salle aussi NHC et le Réseau Québec maritime. Donc, ce sont nos commanditaires. Puis sinon, c'est par les biais du programme Climat de changement qui est financé par le gouvernement fédéral du Canada.
Madame Julia Santos Silva, merci beaucoup de votre participation pour cette entrevue.
Merci à vous.
Le Centre des loisirs de Fatima tient à féliciter M. Michel Noël qui a remporté 1770 $ au tirage d'hier. La cagnotte pour le Joker s'élève maintenant à 7 114 $. Trouver le Joker, c'est pas une joke. Offre d'emploi. Vous souhaitez vous impliquer dans un organisme qui fait la différence auprès des aînés? La Maison d'hébergement pour personnes âgées Nouveaux Horizons cherche à combler le poste d'aide cuisinier-cuisinier ou d'aide cuisinière-cuisinière. Pour postuler ou pour plus d'informations, contactez Patrick Gagnon par téléphone au 418-969-2955 poste 123 ou par courriel au pgagnon@commercialnouveauxhorizons.ca. Une description complète de ce poste est disponible en consultant l'onglet offre d'emploi sur le cfim.ca.
2000 morceaux de gâteau, 2000 chapeaux de fête, 2000 sets de vaisselle à cartran.
Que c'est que tu racontes là? T'as pas les moyens de t'acheter tout ça là, arrête tes histoires.
Ben oui, j'ai les moyens, je vais gagner 2000 $ au bingo de CFIM samedi soir.
Ça va te coûter pas mal plus que 2000 $ pour tout ce liste là.
Ben voyons, tu penses quand même pas que je vais jouer une semaine? Moi, à tous les samedis soirs, je suis plugué à ma radio à 18h. Je vais toutes les gagner, les bingos.
Midi 58 minutes. C'est ainsi que se termine cette édition de l'émission L'épreuve des faits. Merci aux journalistes Laurence Damioul et Raphaël Lapierre, ainsi qu'à leurs invités pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous invite à demeurer sur les ondes de CFM pour l'émission Acadie de nos cœurs qui suivra dans un instant, et dès 14h, l'émission De long en large animée par Pierre Aucoin. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.
Offre d'emploi. Le CPEBC chez ma tante est à la recherche de deux responsables de services de garde en partenariat avec la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Devenir responsable de services de garde, c'est une bonne conciliation entre le travail et la vie personnelle, un local confortable, pratique et sans frais, incluant l'entretien ménager, la liberté de choisir votre horaire et vos vacances, et une aide financière allant jusqu'à 5 500 $. L'ouverture est prévue à l'été et les personnes intéressées doivent contacter le bureau coordonnateur par téléphone au 418-986-5586 ou par courriel aux directions à commercial@cpechezmatante.org au plus tard le 3 mai pour l'ouverture du dossier et pour fixer une rencontre d'information. Une description complète du poste est disponible en consultant l'onglet offre d'emploi sur le cfim.ca.
Toute l'équipe de CFIM désire remercier ses animateurs et ses animatrices bénévoles qui nous permettent d'avoir une programmation riche et variée tout au long de la semaine et de la fin de semaine. Merci à vous de rendre notre radio si vivante. À la grandeur des îles,